Alors, mesdames et messieurs, je tiens à remercier madame la présidente de la Fédération de recherche en santé mentale, monsieur le directeur de la Fédération de recherche, Pierre Thomas, Pierre Hume et les intervenants qui m'accueillent aujourd'hui à l'hôpital Fontan pour traiter sous le chapeau la prise de décision pour autrui en situation d'urgence, le tri médical. Alors la réflexion éthique, son intérêt, c'est aussi malheureusement le côté un peu frustrant, c'est que au final, la réflexion reste toujours ouverte, la question reste toujours ouverte. Et c'est peut-être le propre de l'éthique justement de laisser les questions ouvertes alors qu'elles sont closes, elles peuvent être closes par les principes de la science, les principes scientifiques de la médecine. Peuvent être closes par des principes juridiques et malheureusement elles peuvent être closes aussi par un courant de réflexion qui se veut faire de la philosophie morale expérimentale et qui nous vient pas exclusivement mais principalement des pays anglo-saxons. Alors c'est pour ça que je voudrais partager le propos en trois parties, ou très rapidement passer sur l'approche juridique pour montrer que en situation d'urgence, il y a peu à attendre de la loi, puisque à chaque fois, notamment par exemple sur la question relative aux droits des malades, l'article L. C'est la loi du 2005, 370 du 22 avril. Hein, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité. Donc déjà, la prise en charge pour autrui semble relativement réglée d'un point de vue législatif. Et vouloir faire rentrer la loi dans le cadre de l'urgence et en fortiori dans le cadre de l'extrême urgence, serait un peu la tordre et la dépraver. Parce que, bon, que se passe-t-il en situation du, le tri médical pourrait se résumer, dans une situation de catastrophe, par la question suivante. Si je ne peux pas sauver toutes les victimes dans l'immédiat, qui vais-je sauver en premier? Enfin, donc en plus clair, qui passe en premier? Pour être la question. Alors la médecine répond techniquement par une catégorisation des victimes et sur un principe qui nous vient de loin puisque bon, il semblerait que historiquement le premier qui est mis en place, principe de catégorisation des victimes selon leurs lésions, est Dominique Larré, chirurgien de l'Empire, qui dans une carte postale de l'histoire de la médecine nous montrerait la grange des Lots lors de la bataille, avec Dominique Larré à l'entrée qui fait le tri des victimes et qui prend en charge les soldats selon la gravité, en premier selon la gravité de leurs blessures et non pas selon leur rang militaire. Donc il y a comme ça des petits exemples montrant Dominique Larré refusant les soins à un officier supérieur qui était peu blessé pour faire passer un soldat du rang en premier. Donc on a les premiers principes éthiques qui sont décrits en situation de guerre. Alors, qui passe en premier, avec toujours, bien sûr, au final, de faire en sorte que les moyens viennent au niveau pour que la totalité des victimes soit correctement traitée. Mais quand on fait une catégorisation, quand on décide que telle victime passe avant telle autre, on ne demande pas l'avis aux victimes. Et on ne peut pas, et on ne doit pas. On a donc bien une prise de décision pour autrui. Alors comme je vous l'ai dit, l'approche juridique ne dit pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas de... Bon, alors après, si on creuse un peu, on peut trouver une tradition maritime. Rappelez-vous cette phrase célèbre, « Les femmes et les enfants d'abord ». Là aussi, historiquement, ça remonterait au naufrage d'un bateau repris dans les années dans le milieu du 19e siècle et repris au début du 20e avec le naufrage du Titanic. Mais plusieurs historiens ont bien montré que tout ça était un leurre et que le mot d'ordre sur un bateau était beaucoup plus « sauf qui peut » que les femmes et les enfants d'abord. Alors donc, pour nourrir la réflexion, il n'y a rien de tel que de faire appel à des philosophes, puisque par essence, ce sont les gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Sauf que, justement, confrontés à ce genre de situation, les philosophes, comme je disais, notamment les philosophes anglo-saxons, mais pas tous, sont dit, ben voilà, on va inventer des petites histoires, on va mettre en scène des situations, et on va tenter d'y répondre. Alors, ils font ce qu'on appelle des puzzle cases, c'est-à-dire des expériences de pensée, hein, certains appellent ça des casse-têtes moraux. Alors c'est toujours un peu du même acabit, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a un médecin qui a tant de poches de sang, il y a trois victimes qui arrivent, il pense sauver une avec la totalité, ou alors le distribuer. Enfin bon, c'est toujours le même principe. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'il faut choisir son camp. C'est-à-dire qu'il faut, pour ces philosophes-là, il faut choisir son camp, savoir de quelle obédience philosophique on fait partie. Alors, il est clair que pour nous soignants, c'est pas du tout notre intérêt. Hein, l'idée n'est pas de défendre telle obédience philosophique. Alors je vous l'ai dit quand même parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui se trame et ce qu'on veut aussi nous faire penser. Il y a les partisans ce qu'on appelle le déontologisme, hein, c'est-à-dire qu'il existe des contraintes absolues. Contraintes catégoriques qui pèsent sur nos actions. Et en dépit des circonstances, de nos désirs, il y aura toujours, justement, un principe auquel il ne faudra pas déroger. Ça, ce sont les déontologistes, ça nous vient essentiellement Emmanuel Kant, philosophe du 18e. Il y a ce qu'on appelle le conséquentialisme. Alors derrière ce gros mot forgé en 1958, on a globalement, il faut qu'au total, alors ça c'est au sens arithmétique du terme, hein, au total, c'est-à-dire il y a un calcul, il faut qu'il y ait le plus de bien ou le moins de mal possible dans l'univers, ça c'est en globalement, donc si on a un nombre de victimes, le but c'est voilà, c'est le classique, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, et en espérant que pour le reste ça va aller. Avec des dérives qui sont. J'aurai l'occasion d'en reparler, parce que cette philosophie-là est quand même un peu inquiétante. Puis tout récemment, on revient, parce que bon, l'histoire des idées est toujours un grand balancier, donc on revient à des principes de philosophie antique, où la question ne se pose même plus en termes finalement de visée, de ce qu'il faut faire, mais de ce que l'on doit être nous. C'est-à-dire, est-ce que je serai une bonne personne ? Est-ce que je serai. Est-ce que je viserai l'excellence de ma personne, enfin, on pourrait parler de développement personnel, si mes actions étaient celles-ci ou celles-ci. Alors donc finalement, c'est la décision est soumise justement à un objectif qui est un objectif pour soi. Alors bon, pour mémoire, ça s'appelle éthique des vertus. Alors, il y a un gros mot aussi pour dire ça, ça s'appelle l'arétisme, parce que ça vient du grec, ça nous vient du grec à chaque fois. Et donc voilà. Et derrière tout ça, on a un autre courant philosophique qui joue avec tout ça et qui jongle avec les concepts, normes, valeurs. Est-ce que les normes doivent être soumises aux valeurs ? Est-ce que les valeurs doivent être soumises aux normes ? Un tas de réflexions comme ça qui, justement, pour lesquelles ces expériences de pensée dont je vous parlais tout à l'heure, ces puzzle cases, ces casse-têtes moraux, doivent permettre de vérifier un certain nombre de règles. Est-ce que devoir implique pouvoir ? Est-ce que de ce qui est, on peut dériver ce qui doit être ? C'est-à-dire, alors là c'est un peu plus compliqué, il ne faut pas confondre jugement de fait, jugement de valeur. Est-ce qu'il faut traiter les cas similaires de la même façon ? Voilà. Un certain nombre de questions qui sont soumises à un certain nombre de règles qui doivent être vérifiées par ces. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que justement, le but aussi de ces, de ces approches, que j'appellerais, c'est presque une approche psychologique à ce niveau-là, et justement de clore le débat et de trouver une solution finale et trouver la solution à la question que j'ai posée initialement, c'est-à-dire qui passe en premier. Et selon l'obédience philosophique que l'on aura choisie, bien, certains diront bah, « moi, je décide que c'est comme ça que ça doit être, et puis pas autrement, parce que je m'inscris dans le courant déontologique ou conséquentialiste, etc. » Donc on voit bien un peu le danger, et le danger aussi de ces petites histoires que nous racontent ces philosophes, parce que derrière tout ça, le but est de faire passer un message. Donc elles sont sous-tendues par une certaine idéologie. Alors je vais prendre l'exemple, par exemple, j'en ai un là qui revient souvent, qui est célèbre. D'ailleurs, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle « Killing and Letting Die », hein, c'est « Tuer ou laisser mourir ». Là, tout un programme. Alors je dois conduire rapidement pour aller sauver 5 personnes. Une personne en danger me demande de m'arrêter. Si je m'arrête et la sauve, je n'arriverai pas à temps pour les 5 autres. Et celles-ci mourront. Si je passe mon chemin, je sauverai les 5 autres. Alors voilà, donc il faut choisir. Et puis vous avez derrière ça un livre complet qui vous explique ce qu'il faut faire et que tel philosophe dit que ça serait mieux comme ça, mais que derrière, il n'a pas tout compris. Voilà. Et ça, longueur de page. Alors c'est intéressant intellectuellement, mais pour les praticiens que nous sommes, les soignants que nous sommes, je peux vous dire que c'est pas dans ce genre de casse-tête moraux qu'on trouve nos solutions. Encore une fois, si on trouve nos solutions là-dedans, ben ça veut dire qu'on revient dans un domaine qui n'est plus le même domaine, qui n'est plus celui de l'altérité, ce que là les philosophes appellent le domaine du même, c'est-à-dire qu'on rapporte des cas généraux, des cas singuliers à un principe général. On réduit un cas de figure à un principe général et on a une solution toute trouvée. Alors la solution technique, qu'on l'ait en termes de soins, c'est heureux, parce que ça fait des effets très positifs. Mais en termes d'éthique, je ne pense pas que ça puisse justement toujours guider le médecin et surtout guider sa pratique et guider ses objectifs, la finalité de ce qui l'anime. Alors, l'approche maintenant, approche éthique, après avoir justement discuté de, on va tordre le cou à cette philosophie morale expérimentale, mais disons que après avoir en même exposé que sont des choses qui existent, sont des réflexions qui sont menées, il est intéressant de voir comment nous procédons et comment on peut réfléchir sur notre pratique. Parce que finalement, l'éthique médicale, c'est ça. C'est à un moment donné se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais. C'est déjà une première approche, c'est le questionnement. Et cette question, on peut dire que si elle se ferme, ça veut dire qu'il n'y aura plus de questions qui suivent. Et ça veut dire qu'on a réussi à réduire des cas qui sont à chaque fois des cas singuliers à quelque chose de général, et qu'on a réussi finalement à mettre un cas de figure dans une boîte. Et alors, intellellement, je ne sais pas si c'est... Bon, en tout cas, peut-être que psychiquement, ça peut amener la tranquillité, mais intellectuellement, je ne pense pas, et puis je ne pense pas non plus que à chaque nouvelle situation, on puisse trouver la réponse taillée toute pièce qui va justement guider notre décision médicale. Parce qu'effectivement, si on perd de vue la finalité de l'éthique, si on perd de vue la finalité de la médecine, parce que éthique et médecine vont de pair, si on perd la finalité de la médecine, qui est la personne, non pas le soin, mais la personne à soigner, eh bien à ce moment-là, on peut mettre... au service du soin, un tas de concepts idéaux qui ont, par le passé, détourné l'acte médical. Alors, je vais prendre un exemple. Alors bon, C'était intéressant de prendre cet exemple-là au sein de la fédération qui nous accueille, puisque c'est l'exemple de la psychiatrie. Hein, alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous ai parlé de Dominique Larrey, qui a été, disons, presque un père fondateur de la médecine d'urgence telle qu'elle est exercée à la française, la French Touch. Ce sont les psychiatres qui ont vraiment conceptualisé la médecine de l'avant, la psychiatrie de l'avant. Alors le problème, c'est que ça remonte donc à la Première Guerre mondiale, et c'est intéressant justement cette période anniversaire de centenaire de se remémorer un peu les choses. Alors les psychiatres avaient édicté des principes, mais le problème, c'est que l'objectif de tout ça était de prendre en charge les soldats qui avaient subi des traumatismes psychiques de ces combats, de cette guerre de tranchées qui était très épouvante. Ça montre que c'est en direct comme ça. Donc les psychiatres avaient mis au point, un psychiatre anglo-saxon avait mis au point une technique, mais dont l'objectif était justement de prendre en charge ces soldats qui avaient été traumatisés, sans être blessés physiquement, mais qui avaient été traumatisés, qui avaient des états de sidération. C'est le syndrome du vent du boulet, enfin tous ces syndromes que connaissent bien les psychiatres, et qui avaient théorisé une psychiatrie de l'avant. Mais l'objectif était de remettre en état les soldats le plus rapidement possible pour pouvoir les renvoyer sur le front. Donc on avait donc là un objectif qui était pas qui ne visait pas exclusivement et même pas nécessairement la personne dans les soins, mais qui visait justement à nourrir les bataillons de nouveaux de soldats qui étaient à nouveau sur pied. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé en France la querelle de l'hystérie entre Babinski et Charcot, où justement à propos justement des simulations, parce que bon, simulation de guerre, et donc le tri dans ces cas-là, c'était le tri devait se faire entre les soldats qui simulaient et ceux qui ne simulaient pas, hein, sachant que ceux qui simulaient, ben, c'était globalement c'était la cour martiale, hein, et ceux qui ne simulaient pas, ils étaient, alors donc c'était faire le distinguo entre les malades, les vrais malades et les tirs au flanc. Et ce qu'apportait Charcot, c'était quand même intéressant, puisque lui considérait que en fait la simulation était un symptôme, en fait, c'était à prendre en compte comme un symptôme. Et qu'il n'y avait pas à distinguer des vrais malades ou de faux malades ou de tirs au flanc, mais que partait du principe que la simulation, il mettait la simulation au sein du champ médical, alors que Babinski le mettait dans le champ juridique, en disant voilà, ceux qui simulent sont des tirs au flanc, donc c'est la cour martiale. Champ juridique, tandis que Charcot, lui, les a réintroduits dans le champ médical en disant, mais oui, mais cette simulation, elle est l'expression de quelque chose. Et d'ailleurs, on comprend bien ça, parce que derrière justement, alors c'est expliqué, il y a une page magnifique de Céline, dont Voyage au bout de la nuit, là-dessus, et repris par, dans la même perspective, durant la Seconde Guerre mondiale, avec un roman d'un Américain, Joseph Heller, qui s'appelle Catch 22, et où justement, les soldats sont enfermés dans une situation complètement absurde, puisque vouloir simuler la folie pour se faire dispenser des missions, puisque là, c'était des missions aériennes, est une preuve de bonne santé mentale. Donc ça donnait une espèce de circuit fermé qui enfermait le soldat dans quiconque. Alors et ça donnait donc le lieu à le titre du livre, qui veut dire article 22, quiconque veut se faire dispenser de l'obligation d'aller au feu n'est pas réellement cinglé. Donc à partir de là, le soldat qui voulait simuler, on disait bah oui, mais c'est normal qu'il veuille simuler parce qu'il n'a pas envie d'aller au combat. Donc finalement, celui-là celui qui simule, en fait, est en bonne santé. Et celui qui ne simule pas, on n'en concluait pas qu'il était en bonne santé, il ne lui posait pas de problème, puisqu'il ne simulait pas, il ne se présentait pas à l'infirmerie. Donc, enfin voilà, tous ces problèmes, et là encore une fois, pour montrer que à partir du moment où on utilise les personnes comme des moyens, c'est-à-dire comme des combattants en temps de guerre, on s'émancipe du champ éthique. Et malheureusement aussi, par le passé, n'oublions pas que les médecins, le médecin trieur a joué quand même un rôle qui était un peu particulier. C'était à l'arrivée sur la rampe à Auschwitz, c'était un médecin qui triait d'un côté ce que les Allemands appelaient le Menschenmaterial, c'est-à-dire le matériau humain, et de l'autre côté les bouches, je ne sais pas en allemand, mais enfin peu importe, les bouches inutiles. Hein, donc vous imaginez, on sait comment ça s'est passé. Et ça, sur un principe de dévoiement de cette réflexion, de cette pensée, ce qu'on appelle utilitariste, qui consiste justement à, on pourrait résumer à peu importe la fin justifiera toujours les moyens. Et donc à partir de là, si l'intention du médecin n'est pas la personne, mais autre chose, que ce soit des ordres qui lui viennent de plus haut, hein, c'est ce que disait Eichmann, hein, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Donc si l'intention du médecin, alors il n'était pas médecin Eichmann, enfin bon, ça ne change pas grand-chose, hein, si l'intention n'est pas justement la personne soignée, si l'intention est guidée par autre chose, par d'autres considérations, si ce sont des considérations sociales, religieuses, éthiques, on sort véritablement du champ de l'éthique, et à partir de là, on peut dire qu'il y a instauration d'une nouvelle éthique ou d'autre chose. Or, je défends, moi, la thèse que quand il y a de nombreuses victimes, quand un médecin trieur est confronté à de nombreuses victimes, on ne change pas de registre d'éthique. On est toujours sur la même éthique. Il y a simplement une différence de degré. Donc, on ne change pas la nature de l'éthique médicale. Simplement, on change de degré. La relation médecin-malade sera extrêmement brève. Elle sera extrêmement brève, mais elle sera présente et la finalité des soins sera toujours justement la personne soignée. Et à partir de là, eh bien oui, l'essentiel, on va dire, ce qu'il faut, c'est que le médecin soit guidé pour justement donner le meilleur de lui-même, tout donner dans les limites de ses possibilités et dans les limites aussi d'une situation qui est quand même un peu particulière, celle du tri, puisque nous ne sommes pas dans le colloque singulier, il y a plusieurs victimes, et tout ce que l'on donne à une victime, on ne le donnera pas à la suivante. D'où aussi l'importance de cette catégorisation, de façon à justement donner son énergie pour les victimes qui en ont le plus besoin dans l'immédiat, et permettre aux autres, et quand les lésions des autres peuvent attendre les renforts, c'est justement permettre au final qu'il y ait, là pour le coup, le maximum de victimes qui soient sauvées. Et c'est là, en théorie, c'est ce que l'on visera. Il n'y aura pas d'emblée, il ne peut pas y avoir d'emblée de laisser pour compte, de ce qu'on appelait les morituries, hein, vous savez, ceux qui doivent mourir, c'est du latin ça. Il ne pourra pas y avoir comme principe initial de dire, voilà, bon, on va sauver suffisamment de victimes, c'est-à-dire qu'on va être sur un registre de pourcentage. C'est inacceptable. Et là, en l'occurrence, là, on changerait de catégorie. Alors, certains disent que c'est encore de l'éthique, mais une éthique définie d'une autre manière. Et c'est là qu'on retombe sur nos principes, justement, nos obédiences, où ça ne posera pas de problème. Je vous montre un exemple de ce genre d'histoires comme ça qui sont racontées par des philosophes. Alors là, il y a un philosophe qui, vous allez comprendre tout de suite ce qu'il cherche à démontrer. Je retrouve, je vais l'avoir. Oui, c'est ça, voilà. Quatre adultes et un chien vont mourir. Alors, ils sont dans un canot de sauvetage. Là. Quatre adultes et un chien vont mourir, à moins que l'un des hommes se sacrifie ou que l'un d'entre eux ou le chien soit jeté par-dessus le bord. Alors, la question du philosophe, c'est, serait-il mal de jeter le chien par-dessus bord dans une situation aussi désespérée? Et en fait, bon, quand on gratte bien, c'est un philosophe qui prône la cause animale, etc. Donc, à chaque fois, derrière, il y a une mise en situation qui veut orienter la pensée de la réflexion. Et c'est pour ça que, encore une fois, je mets en garde face à ce genre de traitement ce qu'on pourrait appeler des cas éthiques, puisque pour moi, nous ne sommes pas dans le champ de l'éthique à ce moment-là, et encore moins dans le champ de l'éthique qui puisse être s'accorder avec les soins. C'est bon, Pierre ? D'accord. Alors, comme il me reste 1 minute, je vais en profiter pour apporter un petit mot de conclusion et puis reprendre un petit peu ce que j'ai dit. Alors, donc on ne peut pas accepter une éthique minimale. On attend du médecin qu'il fasse son possible pour sauver toutes les victimes et non qu'il en sauve un nombre suffisant. De la même façon, il n'est pas envisageable de fixer un seuil tragique. C'est-à-dire, voilà, il y aurait des situations où, ben voilà, c'est une tragédie et il faut l'accepter. Parce que le problème dans ces cas-là, c'est comment on le définit, ce seuil, à combien de victimes, quelles victimes, et qui le définit. Donc, on voit bien que, au final, ce qui pourrait apporter une solution, en second lieu, en pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, et comme je défends cette thèse, c'est que la catastrophe ne nous fait pas changer, ne nous fait pas entrer dans l'éthique. On ne rentre pas, on ne définit pas, on ne dit pas, voilà, quand il y a beaucoup de victimes à soigner, beaucoup de victimes à traiter, là, ça devient éthique. Non, ça ne devient pas éthique. La médecine est éthique. Et tout entière éthique, elle a l'éthique, on va dire, chevillée au corps, et l'invariant de la médecine, c'est son noyau dur, c'est justement cette relation entre deux individus que Canguilhem nous rappelle, c'est qu'au départ, s'il y a une médecine, c'est parce qu'il y a des gens malades, et après, il y a des gens qui en savent un peu plus que d'autres sur la maladie et qui vont les prendre en charge. Et nous sommes toujours, dans une relation d'asymétrie. Ce qu'on veut, on a tendance à vouloir gommer avec les principes de contrat. On passe un contrat avec le malade. On est dans une relation d'asymétrie où justement, pourquoi ? Parce que nous sommes en présence d'une part de quelqu'un qui sait, un soignant, et d'autre part de quelqu'un qui est vulnérable, qui est blessé ou blessable. Et donc, cette relation d'asymétrie impose d'emblée que cette relation soit une relation éthique. C'est d'ailleurs ce qui la définit presque. Et je vous ai parlé justement des limites de certaines conceptions philosophiques, notamment l'utilitarisme, qu'on voit beaucoup utilisé par les médecins pour justement ces histoires de tri médical, en disant voilà, bon, à partir du moment où on va sauver le maximum de personnes, et sauf que même si le résultat est le même, on voit, comme je vous l'ai dit, que cette réflexion peut être rapidement dévoyée, et elle l'a été par le passé, elle peut toujours l'être, où à un moment donné on perd la finalité des actions, et la réflexion, et ce qui guide le médecin, est mis au service d'autre chose. Cette autre chose, en aucun cas, il n'est conforme avec l'esprit qui nous anime, celui de soigner des personnes, et donc qui n'est pas conforme à ce que j'ai défini comme étant l'éthique médicale. Enfin, la question du tri est très intéressante, parce que comme je vous le disais, on n'est pas sur une nouvelle nature de l'exercice médical, mais on est sur une différence de degré. Et même si, en situation de catastrophe, le contact avec le patient est très bref, l'essentiel, dans un premier temps, est que les premières victimes d'un accident ne se sentent pas abandonnées. Et ce bref contact est déjà un soin. On est déjà dans une relation médecin-malade. Et il n'y a qu'une différence de degré. Et ce n'est pas la quantité de temps que l'on passe auprès d'un patient qui en fait sa qualité. C'est la façon dont les choses sont appréhendées au final par le patient qui va définir si la relation médecin-malade a été une relation qui a eu lieu et si cette relation a été guidée par l'éthique médicale. Merci.